au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, le combat du carême continue. Enfin, du moins, quand je dis qu'il continue, j'espère qu'il a déjà commencé pour vous et que vous n'avez pas refusé de descendre dans l'arène, que vous n'avez pas eu la faiblesse ensuite de déclarer forfait après ces quelques jours seulement qui nous séparent du mercredi des cendres. J'en sais qui déjà gênent parce que le fardeau est trop lourd ou qui se découragent parce que le carême est trop long. Mes frères, haut les cœurs, il faut que nous gardions courage et pour nous stimuler, pour exciter notre persévérance quadragésimale, le Seigneur Jésus édicte à la fin de l'évangile que nous venons d'entendre, à la fin de son discours, une béatitude. Ces béatitudes, vous savez très bien qu'il les a d'abord édictées, les 8 béatitudes, au début de sa vie publique, lorsqu'il était sur la montagne. Mais de temps à autre dans l'évangile, si on y prête attention, on voit que d'autres béatitudes viennent jalonner la route de ces 3 années de vie publique, et pour nous, de toute notre vie chrétienne. Bienheureux, nous dit Jésus, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Bienheureux, évidemment, nous savons ce que ça veut dire parce que nous avons fait du catéchisme, il s'agit de la béatitude éternelle qui nous attend, c'est-à-dire rien moins que la jouissance de Dieu, la présence faciale, directe, immédiate. Je crois que nous ne sondons pas de quoi il s'agit, des 3 personnes divines, pour jouir du plus grand bonheur qui puisse exister. Pas seulement ce bonheur dans un autre monde, plus ou moins lointain, c'est-à-dire ce monde après notre vie, mais un bonheur dès cette terre. Ce bonheur qu'est le bonheur chrétien, Jésus ne l'annonce pas pour demain, mais pour aujourd'hui. Cette récompense-là, à consommer sans modération, c'est-à-dire cette paix, cette tranquillité de l'âme, dont je suis sûr vous avez déjà fait l'expérience, et qui montre que nous sommes sur la bonne voie, que déjà nous consommons une partie de la béatitude, cette récompense-là n'a pas de prix. Et c'est pour ça que Jésus nous l'agite devant les yeux, telle la carotte, mais quelle carotte, pour que nous gardions courage dans le combat du carême. Vraiment, le jeu en vaut la chandelle. Alors, allons-y gaiement. Évidemment, le prix à payer, c'est, et Jésus nous le dit, à chaque béatitude où il nous montre le prix qui sera accordé, le prix sans que l'on ne peut pas quantifier, qui nous sera accordé, non seulement dans l'éternité, mais dès cette terre. À chaque fois, évidemment, il y joint quelque chose d'un peu moins sympathique, c'est-à-dire un effort à faire. Quel est cet effort aujourd'hui? Finalement, il est assez simple. Écouter la parole de Dieu et l'observer. Bienheureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Avouez que c'est quand même plus facile que ce que nous proposent les 8 béatitudes que nous connaissons par ailleurs. Bienheureux celui qui souffre à cause de l'injustice qui lui est faite. Bienheureux les cœurs purs, bienheureux les doux. Toutes choses qui sont très difficiles à mettre en œuvre. Écouter la parole de Dieu et tenter de la mettre en pratique, il me semble que c'est quand même plus abordable. Or, que nous apprend-elle cette parole de Dieu aujourd'hui? Que nous enseigne le Seigneur Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui? Encore et toujours, des consignes pour mener le combat correctement pendant ce temps de carême. Il y a plusieurs éléments, évidemment, cet évangile est l'un des plus difficiles de l'année et l'un des plus riches de l'année. Alors je vais me contenter simplement de quelques petites remarques sur cet évangile. Il est d'abord fait allusion à quelque chose qui nous touche en permanence dans ce monde qui est loin de Dieu et qui a d'abord touché le Seigneur Jésus, c'est la mauvaise foi de nos contemporains lorsque nous leur parlons du Christ ou lorsque nous leur parlons de l'Église. Jésus a eu à affronter cette mauvaise foi absolue, puisque on va au blasphème jusqu'à faire de lui un satellite de Belzéboub, son chénon. Il est le fils de Dieu, il est le créateur de Satan, et voilà qu'on lui reproche d'être un agent de Satan. C'est bien ce qu'on reproche à l'Église, c'est bien ce qu'on reproche à chacun d'entre nous. En permanence, on nous liste la totalité des exactions que les chrétiens, au fil des siècles, ont pu commettre. En permanence, on nous met sous le nez ces imperfections de l'Église, en nous disant qu'elle ne doit pas être d'institution divine si, en son sein, ont eu lieu autant d'exactions. Mes frères, nous avons 2 solutions devant un tel comportement de nos contemporains. Soit regimber, nous énerver et partir dans des colères folles parce que nous voulons rétablir la vérité. Soit être indifférent, se contenter de délivrer le message du Christ et rester totalement imperméable à ce genre d'opposition qui nous sont faites, qui n'ont d'autre but que de nous faire perdre la paix du cœur. Derrière nos contemporains, ils n'en ont pas conscience, il y a bien Satan. Satan qui veut en permanence, en nous faisant sauter les méfaits de certains chrétiens au fil des siècles, qui veut nous faire perdre la paix du cœur. Soyons totalement indifférents, comme le Seigneur Jésus nous y exhorte en d'autres endroits de l'Évangile, lorsqu'il nous dit, lorsque vous arrivez dans une maison, dites paix à cette maison. S'il y a là des personnes de paix, alors la paix descendra sur eux. Si au contraire il n'y a pas de personnes de paix, cette paix reviendra sur vous. Ou encore ailleurs, si on ne vous reçoit pas dans un village, secouez la poussière de vos sandales, ça leur sera un témoignage, et allez donc voir ailleurs, prêcher la bonne nouvelle. Nous n'avons pas de temps à perdre, nous n'avons pas à nous embourber dans des discussions sans fin qui nous coûtent encore une fois la paix du cœur. Si nous avons en face de nous un mur, tant pis pour ce mur. Jésus est assez clair vis-à-vis des sépulcres blanchis et autres pharisiens de tout craint qui n'ont que faire de son message. Ne nous laissons pas abattre dans ce combat spirituel que nous avons amené notamment au cours du carême, mais pendant toute notre vie chrétienne, en proclamant l'évangile autour de nous. Ça, c'est la première consigne, et il me semble qu'elle est quand même assez intéressante, parce que parfois, nous nous en voulons de ne pas avoir eu raison des résistances de ceux qui nous parlent. Il nous semble que nous sommes des serviteurs infidèles, que l'évangile devrait leur transpercer le cœur. Oui, si ce cœur est endurci, ils demeurent libres, libres qu'ils ont été créés du reste, tant pis pour eux. La deuxième chose, c'est quelque chose qui nous concerne davantage pour le coup, c'est évidemment la règle de base du combat chrétien, l'humilité. Vous me direz que vous savez très bien de quoi il retourne, oui, mais au cours de ce temps de carême, ou peut-être, si vous avez condescendu à descendre dans l'arène, vous avez remporté quelques petites victoires en matière de jeûne, de prière ou d'aumône, fort bien, rendez grâce à Dieu et ne baissez pas la garde. Continuez à avancer humblement, le cœur contrit, ne vous fiant qu'en Dieu et considérant que les petites victoires que vous avez rencontrées, finalement, ne sont que des compensations toutes minimes pour les nombreuses fautes que vous avez faites au cours de votre vie. Voyez, vous n'aurez la bénédiction de Dieu que si, comme cette femme pécheresse qui rentre chez Simon le pharisien, qui court aux pieds de Jésus et qui répand ce nard de grand prix, que si vous avez beaucoup aimé. Autant vous dire que vous êtes, que nous sommes loin du compte. Alors, gardons un petit peu la tête froide, si nous avons quelques trophées à notre tableau de chasse de ce carême, restons calmes, restons humbles et acceptons d'avancer sous la garde de Dieu. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le Seigneur nous exhorte en permanence à veiller et à ne pas jouer les petits pharisiens. Il y a encore une autre leçon dans cet évangile d'aujourd'hui qui est résumée par cette phrase du Seigneur Jésus « Qui n'amasse pas avec moi, disperse ». Aussitôt avant, nous avons cette autre partie de la phrase « Qui n'est pas avec moi est contre moi ». Bon, il semble que cela ne nous concerne pas, parce que nous sommes avec le Seigneur Jésus, nous avons été baptisés, nous sommes ici aujourd'hui et nous proclamons que nous sommes ses disciples. Donc nous sommes avec lui. Mais je crois que la deuxième partie de la phrase que je viens de vous citer plus haut nous concerne « Qui n'amasse pas avec moi, disperse ». Il n'est pas suffisant d'être marqué du sceau du Christ. Il n'est pas suffisant d'avoir reçu toutes sortes de grâces au cours de notre vie. Et il s'agirait de ne pas enfouir ce talent. Dans d'autres paraboles, et elles sont nombreuses, Jésus nous exhorte à ne pas faire comme cet homme qui a hérité d'un seul talent et qui, de peur qu'il arrive des choses jusqu'au retour de son maître, mais surtout par paresse, va enterrer ce talent au fond du jardin. Vous savez très bien ce qu'il advient de lui. Même ce talent lui est retiré et ce bonhomme est rejeté par le maître, c'est-à-dire par Dieu. C'est ce que nous encourons, mes frères, si nous restons oisifs. Le Seigneur Jésus a une sainte horreur de l'oisiveté, notamment de l'oisiveté spirituelle. Mais vous me direz, bon, nous sommes là, nous nous sommes levés de grand matin, et nous sommes ici aujourd'hui, c'est donc que nous ne sommes pas totalement oisifs. D'accord. Il est encore un autre piège que l'oisiveté, c'est le surplace. C'est-à-dire qu'après quelques progrès, et sans être resté totalement oisif, voilà que nous nous mirons dans la glace et que nous nous disons que finalement nous sommes des chrétiens assez dignes de ce nom. Et nous nous reposons sur nos lauriers. Alors le Seigneur Jésus vient taper dans la fourmilière, nous réveiller. Celui qui se croit arrivé parce qu'il aurait eu raison de telle ou telle faiblesse, de tel ou tel vice, que lui présente le Seigneur Jésus, mais la situation très dramatique de cet homme qui a réussi à chasser un démon, qui a gardé sa maison propre. Ce démon revient avec des coadjuteurs, et voilà que sept démons viennent en lieu et place du seul démon qui a d'abord été exorcisé. Cette situation, c'est la nôtre, mes frères, lorsque, encore une fois, vainqueurs sur tel ou tel point, lorsqu'ayant amoindri tel ou tel vice, nous nous tenons pour quittes vis-à-vis du Seigneur, croyant pouvoir le recevoir dignement dans cette maison ornée et parée. Le Seigneur nous dit, si tu te crois arrivé parce que tu as chassé tel ou tel démon, parce que tu es venu à bout de tel ou tel vice, pendant quelques jours, prends bien garde que cet autre démon ne vienne pas agiter ta maison. Voyez, mes frères, de quoi je parle, parce que tous vous l'avez vécu, et je le vis, donc j'en parle avec emphase. Nous avons donc à ne pas nous endormir. C'était, voilà, les quelques petites remarques. Vous voyez que je suis succinct ce matin, j'ai pitié de vous, et parce qu'il fait beau, je veux que vous alliez louer le Créateur dans sa création, et en vous promenant dehors, à la gloire de Dieu, hein, sans face de carême, parce que ça ne sert à rien. Mais bien, chers frères, voilà ce que je voulais confier à votre méditation ce matin, et évidemment, nous nous remettons à la garde du Seigneur Jésus qui est en nous en ce moment même, si nous sommes en état de grâce, ou qui peut revenir en nous. Si vous voulez être restauré dans la grâce, venez donc me trouver à la sortie de la messe, et je vais me faire un plaisir de le faire par l'absolution. Comme ça, le Seigneur Jésus en vous combattra en lieu et place de vous-même, ce qui est quand même pas si mal. Le seul effort qu'on vous demande, c'est de lui ouvrir la porte et d'écouter sa parole encore une fois, mais soyez certains que Jésus, qui est plus que vainqueur, se fera un plaisir de démonter les démons qui viendront rôder autour de vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.